Vous écoutez Radio Campus Paris, 24h sur 24, en DAB+, et sur radiocampusparis.org.
18h01, nous sommes le lundi 1er mai, vous écoutez Radio Campus Paris en FM à Paris et sur le web partout ailleurs, c'est l'heure de la relève.
La relève sur Radio Campus Paris.
Bonsoir et bienvenue pour La Relève, une demi-heure avec un jeune talent comme tous les 15 jours. Aujourd'hui, on va parler de ce qui est le plus beau, de ce qui fait aller toucher les ailes des oiseaux. On va parler d'amour avec mon invité qui est écrivaine et j'ai raté mon lancement.
La Relève sur Radio Campus Paris.
C'est ça, quand on recopie les grands auteurs, il faut bien recopier la citation. Et là, il doit manquer un mot. Et du coup, c'est aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau, mais j'ai plus la suite. Voilà. Bonjour, Garance Meillon.
Bonjour, Christophe.
Vous êtes l'autrice de La langue de l'ennemi, votre déjà quatrième roman.
Oui.
Qui est publié chez L'Arpenteur, une collection de Gallimard. Alors, pour commencer, je vais vous demander, est-ce que vous avez passé une belle journée?
Bah écoutez, je vais vous dire que j'ai passé une bonne journée, ce qui me paraît amplement suffisant.
C'est une petite provocation de ma part, car le personnage principal de votre roman, Emma, change d'univers, voit son couple différemment le jour où son mari Romain lui dit qu'il lui souhaite une belle nuit.
Oui, tout à fait.
Est-ce que vous aussi, ça vous angoisse si quand je vous ai parlé d'une belle journée?
Oui, disons que je ne sais pas si ça m'angoisse, mais ça me crispe, en tout cas.
Ce n'était pas le but. Pardon.
Non, je sais.
Je ne commencerai pas. J'espère qu'on va faire une belle émission, alors.
Oui, non, mais j'en suis sûre. Mais c'est vrai que Emma, mon personnage féminin, change de regard sur l'homme qu'elle aime, sur Romain, sur son couple, sur quasiment tout, la nuit où Romain se couche à côté d'elle et au lieu de lui dire « passe une bonne nuit », il lui dit « passe une belle nuit ». Une grande solitude l'envahit à ce moment-là.
Parce que ce mot « belle » vient du monde de l'entreprise. C'est l'arrivée de son travail dans le foyer.
Elle le ressent vraiment comme ça, en tout cas, parce que c'est un mot qu'on utilise énormément aujourd'hui dans nos vies professionnelles, mais c'est un mot qui s'insère de plus en plus dans nos vies personnelles, comme beaucoup d'autres éléments de langage d'ailleurs. Et donc c'est un mot qui, pour Emma et pour moi aussi, c'est un peu vidé, en quelque sorte. Ça ne fait plus référence à ce à quoi il avait pu faire référence auparavant. Donc il y a vraiment un évidement du mot et qui renvoie presque à rien, en fait.
C'est qu'on ne parle pas de beauté, là, c'est le vide plutôt qui
c'est
lui fait
ça.
Peur.
Oui, c'est ça, c'est qu'on ne parle plus de beauté, c'est un mot qui a été comme dévitalisé, en fait, parce qu'il est trop utilisé. Et donc le fait de le voir grimper dans son lit, justement, cette nuit, où Romain lui dit ça, elle a l'impression que voilà, y a un glissement, y a comme un basculement qui s'opère.
Personnellement, je vais faire une confidence, moi je déteste les gens qui disent « je gère à tout propos ». Ça doit me crisper à peu près autant que vous. Mais je ne sais pas si j'irai jusqu'à rompre à cause de ça. Est-ce que c'est un symptôme, un révélateur d'un couple en crise?
Là, j'ai poussé un petit peu les curseurs aussi pour le livre volontairement. Disons que ça ne la pousse pas à rompre, mais c'est en tout cas le début d'une espèce...
D'une crise.
Une
vraie crise.
Une crise, une espèce d'engrenage. Elle va tenter de faire abstraction de ce mot qui prononce. Elle va se demander si elle n'exagère pas. Elle va demander des témoignages. Elle va consulter même la médecine. Mais il y aura plusieurs... Disons qu'il y a vraiment beaucoup d'étapes.
Lui, il est arrangeant parce qu'il commence à avoir des migraines à ce moment-là. Donc, elle peut penser que ça vient du cerveau.
C'est vrai que...
Cette fameuse zone dont j'ai oublié le nom.
Elle a l'air de Broca, qui est dédiée au langage dans le cerveau. Alors, c'est vrai que ça arrive plus tard dans le livre. Donc voilà, sans vouloir trop en révéler. En tout cas, il y a des symptômes. Disons que Romain, le changement de Romain, s'opère d'abord par les mots, par le langage. Il devient cette espèce d'être, de créature faite de tech et de novlangue managériale. Mais ensuite, ça commence par le langage, mais ça bascule après sur des symptômes physiques.
J'ai lu les remerciements, j'ai donc lu du début à la fin, j'ai vu que c'était inspiré d'une histoire vraie quand même.
Oui,
ça
oui,
m'a
oui.
fait peur.
Oui. Ben, en fait, c'est ça qui a provoqué chez moi l'écriture. Et en fait, j'en suis plutôt reconnaissante au final, parce que ça a donné un livre. Mais c'est vrai que...
Vous allez l'envoyer, cet amoureux?
Écoutez, je sais pas, peut-être qu'il en a eu connaissance. Moi, je vais pas lui envoyer personnellement. Je sais même pas s'il se souvient de cet épisode, honnêtement.
C'est ça qu'on se demande en vous lisant. Vous dites que vous avez poussé les curseurs, mais finalement... Oui. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui prend une place très importante? En fait, c'est aussi l'autre question qu'on se pose en lisant votre livre. Est-ce que c'est lui qui change ou est-ce que c'est elle? Parce que peut-être qu'il l'a dit 200 fois avant et il n'a jamais fait attention.
Ça, je ne sais pas, peut-être. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, je suis partie de quelque chose de très intime. Et après, je l'ai élargi et je me suis dit, si moi, je ressens ça, pourquoi est-ce que je ressens cette solitude-là en entendant ce Belle Nuit? Pourquoi est-ce que ça me renvoie à ça? Et donc, je me suis dit, mais donc j'ai essayé d'élargir le propos et de dire, bah, dans ce cas-là, si on intègre des éléments de langage dans la vie privée, la vie privée sert presque comme de révélateur sur leur, peut-être leur artificialité. Et donc, élargir à partir de là.
Est-ce aussi que vous pensez qu'un couple crée sa propre langue et là, d'un seul coup, lui se met à parler une autre langue que celle du couple?
Oui, bien sûr. Oui, je pense que au-delà de la, disons, de la dichotomie sphère privée sphère professionnelle, bien sûr, à l'intérieur de la sphère privée, chaque couple se crée son propre langage, sa propre façon de se comprendre. Et d'ailleurs, quand il y a une rupture, souvent aussi, on pleure la perte d'un langage aussi, la perte de certains mots qu'on va plus prononcer,
qu'on va plus entendre,
ou alors quand on les entendra, ce sera dans un autre contexte et ils nous renverront à une réalité qui n'est plus.
Alors c'est un couple un peu particulier parce que Romain a un parcours très singulier. Il a étudié aux Beaux-Arts, il était un artiste a priori promis à un avenir raisonnable dans le monde de l'art, et il a tout abandonné pour faire une école de commerce. Et je me suis demandé si vous l'aviez envisagé comme un archétype des rêves perdus, des illusions, des rêves abandonnés.
Oui, j'ai voulu... disons que, en fait, je me disais... Je voulais que le personnage ait eu un passé et une fibre artistique, parce que je trouvais que ça augmentait d'autant plus l'effet produit par cette dévitalisation, l'impression d'avoir sacrifié des choses. Ça lui donnait une certaine épaisseur, et aussi par rapport au fait que Emma, qui elle est écrivaine, qui n'a pas renoncé à ce qu'elle aime, à sa vocation, donc créer cette espèce peut-être de différence entre eux, peut-être qu'il y a du ressentiment. Ça créait vraiment des choses comme ça intéressantes, je trouve, dans leur relation.
Ça veut dire que c'est une angoisse aussi chez vous de devoir renoncer à vos rêves?
Bah oui, je pense qu'on est mis, on est souvent mis face à des dilemmes, l'économie, la finance versus l'art, la création, bien sûr. Oui.
Alors, je crois que les auditeurs l'auront compris, le langage est au cœur de votre roman. Je le rappelle, la langue de l'ennemi, Garance Meillon, chez l'Arpenteur que chez Gallimard. Tous les personnages ont un rapport avec elle. La narratrice est autrice, sa meilleure amie travaille à la radio, cette amie est mariée avec un avocat, on y reviendra un peu plus tard. Romain est un communicant. Et puis il y a la petite Roxane. Alors elle a aussi un rapport au langage très particulier, c'est qu'elle ne parle pas.
Oui, elle a 3 ans et elle a ce qu'on appelle un retard de langage, ce qui inquiète beaucoup ses parents. Elle ne dit rien.
Parce qu'il parle trop, peut-être, non?
Bah après, c'est forcément lié. C'est-à-dire que Emma, qui commence vraiment à, disons, à voir les choses en noir, se demande si le retard de langage de sa fille n'est pas lié à cette espèce de changement de langage qu'il y a au sein du foyer. Le fait que Romain utilise ces mots-là, est-ce que ça ne retarde pas aussi leur fille, leur petite fille?
Oui, alors là, on voit toute la culpabilité de la mère. Vous en parlez très bien. C'est aussi quelque chose qui vous préoccupe? Vous êtes une jeune femme?
Oui, je pense que c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup de
filles de votre génération.
Ouais, beaucoup de jeunes mères aussi, l'impression de jamais faire assez bien.
Il y a cette scène terrible où elle va chez l'orthophoniste et qui en gros met en cause s'interroge sur le milieu dans lequel elle est toute la journée.
Oui.
Et là, elle est obligée de dire qu'elle reste avec elle et qu'elle ne voit pas d'autres enfants. Et sans en faire des tonnes, on sent toute la culpabilité dans ce passage.
Oui, parce que l'orthophoniste se demande est-ce que votre fille évolue dans un environnement suffisamment stimulant. Voilà. Et donc elle doit répondre de ça. Et c'est vrai que Emma est seule avec sa fille. Et en fait, Emma elle-même est bloquée au niveau de l'écriture. Elle n'arrive plus à écrire. Et donc quand on a quelqu'un qui consacre tout son temps à l'écriture, qui est à la maison, mais qui consacre tout son temps à l'écriture et qui d'un coup n'écrit plus, elle se pose aussi masse des questions sur elle-même, sur sa propre identité, et elle est face à sa fille, elle doit s'occuper de sa fille, et sa fille a ce problème.
Et lui a arrêté de peindre et parle comme un communicant.
Alors lui, ça fait un moment qu'il a arrêté de peindre parce qu'il a renoncé à ses rêves. Il a renoncé à ses rêves, il s'est consacré à sa carrière. Mais c'est vrai que, oui, on n'a pas vraiment accès à Romain dans ce livre, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dans sa tête.
C'est ça, en fait, on ne sait même pas vraiment pourquoi il a arrêté, on n'a que sa version elle. Moi, j'ai pas réussi à savoir si c'était moi ou si c'était votre intention d'autrice en vous lisant. Mais est-ce que finalement c'est lui ou c'est elle le problème ? Est-ce qu'en tout cas, est-ce que vous, dans votre tête, vous aviez la réponse ? Je vous demande pas de la donner peut-être ici aux gens qui n'ont pas encore lu le livre, mais est-ce que vous avez créé volontairement cette ambiguïté ?
Bah, j'ai voulu créer cette ambiguïté parce que j'ai voulu donner au roman une tournure étrange ou fantastique. Et en fait, dans les romans étranges, parfois, on ne sait pas, ou les romans fantastiques, on ne sait pas si c'est le narrateur qui un problème ou si c'est ce qui arrive est réel. En fait, on doute un petit peu des perceptions du narrateur, et le changement chez Romain est quand même pas très tangible. C'est-à-dire que c'est le langage, mais c'est un langage qui passe extrêmement bien avec le monde extérieur, parce que le monde extérieur a tout à fait accepté ces éléments de langage. Donc, ce n'est pas quelque chose dont ses amis peuvent témoigner. Ils ne peuvent pas vraiment comprendre ce qu'elle veut leur dire. Et par ailleurs, bah, les symptômes physiques après qui sont provoqués chez Romain, les maux de tête, ce genre de choses, bah, c'est des choses quand même assez, assez communes. Donc Emma en vient à se dire, mais est-ce que c'est moi qui... Il n'y a que moi qui perçois ce nouveau langage chez Romain.
Mais à la lecture, il y a quelque chose de très angoissant.
Oui, oui.
Je ne vais pas vous dire que j'avais peur hein, en le lisant, mais il y a une espèce de ligne de... comme une ligne de basse qui est sur l'angoisse. Ça, vous l'avez travaillé aussi.
Oui, tout à fait. Oui, oui, j'ai voulu que ce soit assez implacable. Que ce soit une transformation, qu'on sente la transformation inéluctable. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait un chapitrage alphabétique, parce que l'alphabet, ça commence par A, on sait où ça finit. C'est pas ouvert comme des chiffres, comme des chapitres qui seraient numérotés.
Donc c'est un chemin de croix en 26 stations. Il n'empêche que, même si c'est, vous l'avez écrit, vous dites de façon très, très construite, la fin est quand même très surprenante, on n'en dira rien, mais moi je m'y attendais pas. Je ne sais pas si les gens qui lisent d'habitude s'y attendent, vous disent...
La fin est ouverte, les gens sont assez déstabilisés par la fin. Il y en a qui adorent le fait que ce soit ouvert, il y en a d'autres qui auraient aimé...
Est-ce qu'ils s'attendent à celle-là ?
Non, pas du tout. En général, les gens ne s'attendent pas à cette fin. Ouais. Pour moi, elle est... Voilà,
je dis rien, moi non plus.
Non. Excusez-moi. Mais pour moi, elle est assez cohérente et, dans ce que je voulais faire, mais c'est vrai que les gens sont assez étonnés.
Moi, j'ai trouvé aussi qu'il y a beaucoup de livres sur la naissance du désir amoureux, l'amour, l'espèce de folie que c'est de tomber amoureux. Ce que raconte votre roman, et ce n'est pas si courant, c'est le désamour, c'est-à-dire les étapes. Et finalement, on réalise que le désamour est presque aussi fou que tomber amoureux.
Oui, il y a quelque chose de... Bah, il y a plusieurs... C'est vrai que dans le livre, j'ai voulu qu'il y ait plusieurs niveaux de lecture. Il y a ce propos sur le langage. Mais c'est vrai qu'on pourrait aussi tout simplement dire que bah, il ne parle plus la même langue. Ça veut dire qu'il ne s'aime plus.
Donc c'est... En tout cas, ils ne s'aiment plus pareil. Oui, ils ne sont c'est... plus dans la même hauteur.
Oui, enfin, en fait, elle, je pense qu'elle s'accroche beaucoup. Et elle est très... Elle s'accroche beaucoup à cet amour. Et c'est pour ça que j'ai aussi écrit beaucoup de souvenirs. C'est-à-dire qu'il y a quand même les souvenirs qui viennent pallier, disons, ce désamour-là. Et donc, on est beaucoup dans les souvenirs d'Emma aussi. Et c'est vraiment une dimension qui était importante pour moi dans le livre, pour apporter une espèce de respiration par rapport à ces éléments qui sont peut-être plus thrillers ou plus angoissants de la transformation.
Mais je reviens à ce que je disais, parce que l'amour, c'est bien quand on tombe amoureux, c'est très irrationnel, on part un peu parfois, enfin en tout cas moi, on part ailleurs. Mais est-ce que vous pensez aussi, vous, que le désamour, c'est très irrationnel ? Parce que là, il y a un élément qui déclenche dans le cerveau d'un des protagonistes, et à partir de là, il y a une machine qui se met en route.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est un processus...
Et qui est assez peu étudié par la littérature, me semble-t-il, par la littérature. Il y a le mépris de Moravia auquel on pense, en tout cas auquel j'ai pensé, ou du jour au lendemain, on voit le film ou qu'on lise le livre, du jour au lendemain, elle ressent ce mépris et puis leur histoire part. Et est-ce que vous aviez par exemple cette référence-là en tête ou pas du tout ?
En fait, non. Alors quand vous dites, c'est marrant parce que quand vous dites le mépris, moi je pense au mépris de Godard, le film, parce que c'est aussi sur le désamour. Mais en fait, quand j'y pense maintenant, je me dis qu'il y a peut-être beaucoup de livres sur le fait de tomber amoureux et sur l'amour, parce que en fait, l'amour est étroitement associé à la fiction. En fait, l'amour c'est beaucoup une fiction. Ça passe beaucoup par des mots, par ce qu'on se raconte. Et donc le désamour, de ce fait, c'est peut-être sortir de la fiction en fait. C'est peut-être sortir de la fiction qu'on se racontait sur l'autre.
Peut-être qu'on se rend dans une autre.
Voilà, oui, mais il y a quelque chose de peut-être moins évident à attraper avec la fiction dans le désamour qu'il y aurait à capter dans le fait de tomber amoureux. Je me demande si c'est pas ça l'explication.
Je sais pas. je voudrais pas vous écraser sous le poids de références trop importantes, mais en vous lisant, on pense à Kafka. Je vous disais à Moravia à l'instant, et puis aussi peut-être à Pérec et aux choses, pour la description de ce jeune couple assez parfait au départ, où tout va bien. Puis un dérèglement aussi. Ce sont des sources d'inspiration que vous revendiquez, vous en avez d'autres? Qu'est-ce qui...
Qu'est-ce
qui vous a guidé? Enfin, qu'est-ce que vous avez relu en même temps ou avant?
En fait, moi, je voulais travailler cet élément d'étrangeté dans la transformation de Romain. Donc, j'ai relu des romans fantastiques français. J'ai relu Le Horla, j'ai relu La Peau de Chagrin, ce genre de littérature, pour comprendre pour mieux écrire, en fait, un changement et des éléments étranges, mais par la perception d'un narrateur qui n'est peut-être pas si fiable que ça ou dont on doute un peu. Donc ça, c'est cette dimension-là.
Donc ça, c'est le travail, j'ai envie de dire. C'est presque la technique d'écrivain que vous avez travaillé.
Oui, il y a quelque chose. Oui, il y a quelque chose de.
On fait glisser le réel.
Dans l'atmosphère, dans l'ambiance, dans la technique, tout à fait. Et pour ce qui est du social, vous avez raison par rapport à Pérec, parce que les choses. Moi, c'est un livre que j'avais lu, mais bien avant l'écriture. Et ça a sans doute infusé, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose sur cette classe sociale, le fait que Emma et Romain veulent partir en week-end, mais en partant en week-end, ça veut dire qu'ils vont remplir des sacs de voyage. Avec quoi est-ce qu'ils vont remplir ces sacs de voyage? Est-ce qu'ils vont acheter des choses? Il y a quelque chose aussi dans leur quotidien qui est très fluide, qui est très lisse. Donc c'est un petit peu aussi un vernis peut-être qu'on gratte justement en défaisant ce couple.
Sinon, vous, en tant qu'autrice, vous revendiquez de quels auteurs? Qui sont les auteurs qui vous ont marqué, qui vous...
Moi, franchement, j'ai énormément d'auteurs que j'aime. C'est difficile. Mais par exemple, je pourrais citer beaucoup.
Justin,
je pourrais vous en citer beaucoup des éditions de Minuit, par exemple, parce que moi, je suis extrêmement sensible au rythme et à la mélodie du texte, plus qu'aux mots, en fait, en eux-mêmes. C'est-à-dire que je préfère un texte qui va me porter comme une musique davantage que des adjectifs ou des mots qui vont éclater ça et là, en fait. J'aime bien me laisser
Duras,
voguer.
Duras, par exemple.
J'adore Duras, mais par exemple, dans
c'est
les
auteurs... C'est marrant parce que j'ai pensé à Duras en vous lisant.
Ah bah, je prends le compliment bien volontiers.
Et j'arrivais pas à savoir pourquoi, parce que vous n'avez pas vraiment le même univers, il est plus passionné, vous êtes plus froide, enfin le roman en tout cas est plus froid.
Ça, je ne saurais pas dire, mais effectivement, c'est une autrice que j'ai énormément lue, qui m'a beaucoup inspirée, même dès l'adolescence. Et pour les auteurs vivants, moi par exemple, j'aime beaucoup, beaucoup Tanguy Viel, parce que Tanguy Viel, c'est monter à bord d'un bateau quand on le lit et se laisser porter par son flow, quoi, j'ai envie de dire, comme pour la musique.
Vous avez été en résidence d'écriture chez Marguerite Yourcenar. Je suis jaloux parce que la maison est sublime. C'est un auteur qui compte pour vous, Yourcenar, ou pas tant que ça, parce que trop classique, un peu vieux?
J'aime beaucoup Yourcenar. Je ne suis pas... j'ai pas lu tous les livres de Yourcenar, mais c'est évidemment une écrivaine très virtuose. C'est quelqu'un qui a beaucoup de panache. Bien sûr, j'admire ça, oui.
Et c'est quoi, alors, être en résidence d'écriture pour les gens qui nous écoutent et que ça fait peut-être rêver? C'est des dossier à remplir, c'est...
Oui, alors j'en ai fait deux pour ce livre. J'ai fait la Fondation des Treilles dans le Var et j'ai fait donc la Villa Marguerite Yourcenar dans le Nord. Et en fait, souvent... Alors les conditions changent, mais oui, il faut envoyer un dossier. Il faut envoyer souvent des ouvrages qu'on a déjà écrits. Il faut présenter le projet d'écriture et ensuite on est sélectionné.
Vous restez là-bas un mois ou vous devez écrire à tout prix? On vient surveiller ce que vous faites?
Alors non, on ne demande pas de compte en général.
On juste de remercier dedans dans les...
Oui, et puis d'envoyer forcément, bien sûr, le livre. Ce qui est tout à fait normal, mais non, c'est vraiment de la sérénité, de la tranquillité, du temps qu'on va pas passer à faire des rendez-vous à Paris. Enfin, c'est vraiment une
moyen de sortir un peu du monde, quoi.
Oui, c'est une parenthèse. Ouais.
Mais nous, on va faire une parenthèse musicale. Offshore through the tides of oceans, we are shining in the rising sun. As we are floating in
softly watching you. Oh boy, your eyes betray what burns inside you. Whatever I feel for you, you only seem to care about you. Is there any chance you could see me too? 'Cause I love you. Is there anything I could do just to get some attention from you? In the ways of lost every trace of you. Where are you? Drifted ashore through the streams of oceans, whispers wasted in the sand. As we were dancing in the blue, I was synchronized with you. But now the sound of love is out of tune. Whatever I feel for you, you only seem to care. Is there any chance you can see me too? 'Cause I love you. Is there anything I could do just to get some attention from you? In the ways of lost every trace of you.
Les histoires d'amour finissent mal et Parlez-moi d'amour de Lucienne Boyer. Puis finalement, pour illustrer votre roman, Garance, Meillon, La langue de l'ennemi, on a choisi Woodkid, I love you.
La relève sur Radio Campus Paris.
Parce que malgré toutes ces impasses, l'amour c'est quand même ce qu'il y a de plus beau, je tiens à le redire. Il y a cette phrase de Lacan aussi qu'on a beaucoup entendue qui dit qu'aimer serait donner ce que l'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. C'est son problème à votre héroïne, vous croyez ?
En tout cas, je pense qu'elle espère quelque chose de Romain qui n'est plus en mesure de lui donner. Et en tant qu'écrivaine aussi, elle veut des mots. Elle veut des mots. Elle veut le langage de l'amour.
Elle veut les mots.
Elle veut le langage qu'elle connaît, en fait, et qu'elle a aimé chez lui. D'ailleurs, je raconte la rencontre d'Emma et Romain, et elle a beaucoup éplé son prénom aussi dans sa tête.
C'est très joli ce que vous écrivez sur l'enchaînement des lettres. Oui.
Voilà, c'est ça.
Donc, le A qui s'accroche au M, je crois.
C'est ça, oui, c'est ça. Donc c'est fondamental.
Elle a presque envie de s'appeler Romain après vous avoir lu. Je jure, c'est vrai.
Romain. Puis voilà, il y a Romain, roman, romanesque. Et donc Emma veut ça de lui et il n'est plus en mesure de le lui donner. Donc ça rebondit un petit peu sur la citation de Lacan.
Diriez-vous que votre roman est un roman politique ?
Je pense qu'il y a une dimension politique, mais j'aime à penser qu'il peut s'abstraire aussi du politique. Même si
parce que quand même le titre est violent, la langue de l'ennemi. Mmh. C'est l'ennemi, l'entreprise, parce que c'est la question qu'on se pose. Est-ce que, on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que le monde de l'entreprise, le monde de la finance, c'est l'ennemi du monde de la création ?
Bah écoutez, on peut le voir comme ça. Moi, j'ai pas.
Ce que voient les critiques aussi, hein.
Oui,
de celles que j'ai lues en tout cas.
Oui. Bah.
On fait de vous un peu.
En fait, l'ennemi pour moi, c'est tout ce qui peut dévitaliser la langue, lui enlever son pouvoir. Et d'ailleurs, je pense aussi que quand notre langage change, notre pensée n'est plus la même. Notre façon de vivre les choses n'est plus la même. Et donc, pour moi, ça, c'est un adversaire. Alors là, je pense que c'est diffus et je pense qu'on ne peut pas réduire ça à l'entreprise. Mais le langage est un signe d'appartenance à quelque chose. C'est bien pour ça qu'on dit qu'il y a des différents langages selon là d'où on vient, ce qu'on connaît, des accents, etc.
Comment le vocabulaire des métiers à une époque, par exemple où... On pouvait savoir ce que c'est quelqu'un parce qu'il connaît des mots que les autres ne connaissaient pas. C'est moins vrai aujourd'hui avec l'informatique qui est partout. Mais
c'est ça. Mais donc, en fait, quand on a ce langage-là, qui est le langage du capital, j'ai envie de dire, ou de l'entreprise, qui ne fait pas référence, qui fait référence finalement à quelque chose d'économique, et quand ce langage-là intègre la vie privée, de quelle appartenance est-ce qu'on se revendique quand on utilise ce langage-là aussi ? À quoi ça renvoie ? C'est ça qui fait peur à Emma, je pense.
Dans votre livre, ce qu'on voit, c'est l'envahissement du privé par le monde professionnel. Il y a ce langage, mais il y a aussi ce smartphone de Romain qui est omniprésent. Et... Parce qu'il est en fait, le pauvre, quand même, qu'on le défend, je le défends, par solidarité masculine. Le patriarcat a quelques restes avec moi, mais enfin, pas beaucoup, mais quelques-uns. Alison pourra témoigner un jour. Ma petite licorne. Ce que je veux dire, c'est qu'il est aussi dans un moment de stress intense. Son entreprise est en train de se faire racheter, il y a un secret à couvrir, il est au cœur de négociations. Il a quand même une raison aussi d'avoir toujours ce smartphone.
Je
reviens sur ce smartphone.
Oui, c'est intimement lié à la technologie, je pense.
Intime.
Absolument. Et d'ailleurs, oui, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est aussi le smartphone qui est partout aujourd'hui et qui fait qu'on peut travailler de n'importe où. Donc, cette infiltration du travail dans le privé aussi métabolisée par le smartphone. Ouais.
Il y a un moment fort, on va un peu déborder, mais je crois qu'il n'y a pas de matinale à 19h, donc on peut un peu déborder, c'est pas très grave. Il y a un moment fort dans votre livre, c'est quand Emma va assister à la plaidoirie de l'ami avocat, Dimitri, si je me
souviens. Vladimir.
Je sais bien qu'il avait un nom russe.
Oui.
J'avais pas le temps de rechercher.
Vlad.
C'est Vlad. Pardon. Et là, l'écrivaine que vous êtes, vous remarquez la puissance de cette parole qui peut changer la vie d'une personne dans un très joli chapitre. Est-ce que c'est ça, finalement, une vraie langue ? C'est une langue qui a une action sur le réel, alors que Belle Nuit, ça...
Oui, en fait...
C'est ça, finalement, que vous regrettez, que j'ai pas envie de dire que vous luttez contre, mais enfin, on sent bien que c'est la langue de la politique, c'est la langue des tribunaux, c'est cette langue où un homme qui parle peut changer le monde.
Mais alors, dans le cas de Vladimir et de sa plaidoirie, c'est vrai que c'est une déclinaison de cette langue-là, en tout cas. C'est une langue qui a un pouvoir, qui fait que cet homme qui est accusé, qui est dans les bancs d'accusation, va avoir une peine réduite.
Et c'est il se prend 10 ans au lieu de 20, si je me souviens
voilà,
bien.
Voilà, exactement. Bon, c'est quand même
pas
mal, mais bon. Mais en tout cas, la puissance évocatrice de la plaidoirie de Vladimir accomplit ça. Et moi, je trouve ça complètement incroyable et magique, en fait, que cette parole-là puisse accomplir ça. Mais c'est aussi le cas dans la langue de l'amour, parce que la langue de l'amour, c'est une langue qui est performative. C'est-à-dire que quand on dit « je t'aime », c'est un acte. Mmh. Et donc, c'est ça aussi que Emma attend, je pense.
Vous dites ça, hein, vous écrivez plutôt. Un tissu de mots adroitement troué de silence aura abouti à ce résultat dans une vie humaine. 10 ans de prison en moins, à la place une décennie de plein air et de liberté, de mouvement. Une victoire sans nul doute, même si l'accusé, le regard dans le vague au moment de la sentence, avait paru prendre la mesure de 10 années à passer entre 4 murs. Moi, j'aime bien, c'est les trouées de silence. C'est que le silence compte tant que ça.
Le silence compte beaucoup parce que le silence qui suit des mots forts est toujours imprégné de ces mots-là, tout comme quand on dit que le silence après Beethoven, c'est toujours du Beethoven.
Vous avez publié en parallèle aux éditions du Seuil « Je suis bleu », un roman pour enfants, où là encore il y a une séparation entre des adultes. C'est là aussi un regard sur le couple.
Oui, du point de vue d'un enfant cette fois-ci.
C'est la revanche de la petite, là, dont, ça y est, le nom m'échappe.
Roxane.
De Roxane, c'est la revanche de Roxane.
Alors là, c'est un petit garçon qui s'appelle Léo. Mais
on
bon,
sait bien que on est gender fluide. Hein.
Oui. Oui, oui, bien sûr. Mais non, enfin là, c'est du point de vue du petit garçon. C'est effectivement une séparation. Et là, c'est vraiment. Il y a aussi une transformation.
Qui passe par la couleur, là.
Beaucoup plus physique. Oui, beaucoup.
Moi, je ne l'ai
plus,
pas lu. Hein. J'ai juste vu que vous aviez travaillé avec une illustratrice qu'on va quand même citer. Margot Otatz.
Tout à fait. Tout à fait.
C'est une rencontre. Comment vous avez travaillé avec elle?
On a travaillé sur la base de mon texte.
Vous avez écrit le texte d'abord?
J'ai écrit le texte d'abord et puis on a travaillé ensuite avec l'éditrice, avec notre éditrice sur les illustrations. Et Margot a fait quelque chose de superbe qui va très bien avec le texte.
Vous avez un long métrage en développement que vous recherchez actuellement un financement, ça s'appelle « J'arrive, est-ce que ça parle d'amour ?»
Ça parle d'amour, bien sûr.
Forcément de couple ?
Bien sûr, mais alors d'amour, plutôt de tomber amoureux, le fait de tomber très très amoureux pour la première fois. Donc là, c'est vraiment un peu l'inverse de
c'est un peu mon histoire, alors merci. C'est formidable. On pourra le voir quand ?
Ah bah écoutez, je sais pas encore. Là, on est encore en financement pour l'instant.
C'est dur de trouver un financement ?
C'est long, mais c'est un processus.
Une dernière question, parce que je garde quand même un œil sur la pendule. En préparant l'émission, j'ai vu que vous aviez étudié aux États-Unis. Est-ce que cette expérience d'avoir étudié dans une autre langue vous fait écrire autrement ?
Oui, alors d'avoir étudié et de parler couramment une autre langue, parce que je pense qu'on pense différemment aussi quand on pense dans une autre langue. Et c'est pour ça aussi qu'on en parlait tout à l'heure, la traduction m'intéresse beaucoup aussi.
Votre prochain roman sera sur une histoire de traducteur qui tombe amoureux ?
Bah pourquoi pas, ça sera intéressant.
D'une langue qu'il ne connaît pas peut-être. Mais écoutez, merci beaucoup.
Merci, hein.
Merci beaucoup Garance Meillon. Je rappelle le titre de votre livre, ça s'appelle La langue de l'ennemi. C'est aux éditions, enfin c'est dans la collection L'Arpenteur aux éditions Gallimard. Voilà, c'était La Relève préparée, présentée par Christophe, réalisée par la licorne Alison. Vous pouvez retrouver l'émission et toutes les précédentes ou presque sur le site web de Radio Campus Paris. Pas de matinale à 19h. Par contre, vous retrouvez à 20h le programme de Radio Campus Paris. Et d'ici là, vous avez de la musique. Voilà. Et qu'est-ce que j'avais encore à vous dire ? Maintenant, on se retrouve dans 15 jours. Voilà, bonne soirée, à bientôt. Au revoir.